Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour et bienvenue, merci de votre fidélité et j'ai une excellente nouvelle pour vous. Francis Laloupo est avec nous cette semaine et de chez lui. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane Niacha, oui, je suis très heureux de vous retrouver, même en situation de confinement. Nous sommes ensemble en tout cas, et c'est heureux de retrouver les auditrices et auditeurs de cette émission.
Et nous sommes aussi heureux de vous avoir à nouveau, Francis Laloupo, et bon courage pour le confinement en France.
Merci, on en a bien besoin. Merci beaucoup. Il faut que le monde se rétablisse.
Francis,
premier sujet.
Premier sujet. S'il te plaît, vas-y, on va monter.
Premier sujet, Liliane, que va faire donc la justice du rapport sur le détournement présumé de fonds destinés à l'achat de matériel et autres équipements de défense? Ça se passe au Niger.
Le dossier Francis Aïtou 1 était en tout cas transmis à la justice sous la pression de la société civile. Le procureur qui a confirmé mardi avoir reçu le rapport d'audit a assuré que l'État sera intégralement mis dans ses droits et force restera à la loi. En février dernier, NODI a révélé des anomalies, notamment dans des livraisons de matériel de défense. La perte pour l'État nigérien est estimée à environ 100 milliards de francs CFA. La justice nigérienne ira-t-elle jusqu'au bout au regard de la qualité des personnalités dont les noms sont mentionnés dans ce dossier? Nous en débattrons.
Deuxième sujet de cette édition, le dossier Hissène Habré, en accordant la libération provisoire pour raison de coronavirus à l'ancien président tchadien. La justice sénégalaise a provoqué la colère des familles des victimes de l'ancien président tchadien.
La colère, oui, mais aussi des doutes quant au retour de Hissène Habré en prison après l'expiration des 60 jours de liberté conditionnelle qui lui ont été accordés. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'un des avocats du collectif des victimes. Lundi soir, l'ex-dirigeant tchadien âgé de 77 ans, condamné à la prison à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a regagné sa résidence à Dakar.
La République démocratique du Congo, coup de théâtre, hein, et très probable divorce entre le président Tshisekedi et son directeur de cabinet Vital Kamerhe, placé cette semaine en détention provisoire.
Convoqué par le parquet général près la cour d'appel de Matete à Kinshasa, Vital Kamerhe a été entendu puis arrêté dans le cadre de la gestion des fonds alloués au programme d'urgence pour les 100 premiers jours au début du mandat du président Félix Tshisekedi. L'UNC, parti de Vital Kamerhe, allié politique du président Tshisekedi, dénonce ce qu'il présente comme une campagne de diabolisation. Quelles sont les possibles conséquences politiques de cette affaire judiciaire? La coalition Cash va-t-elle survivre à cette crise? Analyse. Francis, à vous pour le plateau.
Notre grand témoin invité en cette édition, au téléphone depuis Niamey, Nassirou Alidou, député à l'Assemblée nationale du Niger, membre du parti Modem Fall Lumana, parti d'opposition présidé par l'ancien Premier ministre Ama Amadou. Nassirou Alidou est également président de la commission Mines et Énergie du Parlement de la CDAO. Monsieur le député Nassirou Alidou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Dakar, Ousseynou Narguey, consultant et fondateur du site d'information tract.sn. Ousseynou Narguey, bonjour.
Bonjour à vous Francis, bonjour Liliane, ainsi qu'à votre invité du Niger, bonjour.
Merci d'être avec nous en tout cas. Liliane, premier sujet donc, le Niger, hein, des controverses autour de la gestion des fonds de défense.
En effet, selon le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, le rapport définitif sur les détournements présumés de fonds au ministère de la Défense du Niger se trouve entre les mains de la justice et ce depuis le 3 avril dernier. Il affirme que le dit rapport a été remis à son bureau par le parquet général suivant la procédure habituelle. Rappelons qu'en février 2020, un audit du ministère de la Défense révèle des irrégularités dans l'exécution des marchés publics dans ce département ministériel. Celui-ci pointe notamment du doigt les conditions de passation, d'exécution et de paiement de certains de ces marchés passés de 2017 à 2019, mais aussi antérieurs à cette année, c'est-à-dire 2017. Monsieur le député, honorable Alidou, maintenant que le rapport définitif sur ces détournements présumés de fonds au ministère de la Défense et entre les mains de la justice, comme le souhaitait la société civile. Que va-t-il se passer d'après vous? Qu'espérez-vous au niveau de l'opposition nigérienne? Honorable Nassirou, allez-y s'il vous plaît.
Oui, je vous sens très bien, je vous remercie. C'est vrai, précisément c'était le 26 février 2020 que le gouvernement du Niger a rendu public un communiqué sur un audit effectué au ministère de la Défense nationale. Ce que j'attends de ce gouvernement, ce n'est pas une surprise. Hein. Honnêtement et sincèrement, je n'attends rien de ce gouvernement. De toute évidence, les arrestations arbitraires autour de ce dossier, tous les actifs de la société civile sont aujourd'hui en prison. Rien que hier, Ali Idrissa a été interpellé à la PJ, la police judiciaire, pour un dossier dont on dit pouvoir en vie publique, on dit avoir saisi le procureur de la République, et on continue à arrêter ceux-là même qui ont dénoncé. Au lieu de les remercier...
Excusez-moi, honorable Alidou, oui. Ces personnes, c'est-à-dire ces membres de la société civile dont vous parlez, ont été arrêtés après la manifestation du 15 mars de la société civile, et non pas après que le dossier ait été transmis cette semaine à la justice, au procureur.
Oui, mais la marche même, c'était pour dénoncer ce détournement-là. C'était pour dénoncer ces détournements-là. Parce qu'il faut le noter que c'est des centaines de soldats nigériens qui étaient tués au front par manque de matériel adéquat pour mener la guerre. Les Nigériens, les soldats nigériens, et jadis reconnus par sa bravoure, il n'a jamais fui devant l'évidence. Il a toujours accepté d'être tué au lieu de fuir. C'est ce que la société civile a dénoncé. Et ce qui a poussé, peut-être, je ne sais pas, parce qu'ils ont dit que c'est le président de la République lui-même qui aurait demandé un audit au niveau du ministère de la Défense. Donc, l'audit a révélé un détournement d'environ 1 700 milliards. Moi, depuis que j'ai dit ça, en tant que député national, je pense que ça dépasse cette somme-là. Mais quand cela tient, au lieu de remercier ceux-là même qui ont poussé le président de la République à faire un audit, non, on les arrête. On les met en prison. Avant-hier, le procureur de la République a fait son courrier circulaire selon laquelle il a été saisi officiellement du dossier et que maintenant, tout celui qui parle à la fin, et le dernier alinéa de son communiqué, ce qui fait allusion, tout celui qui parle pour... dans les réseaux sociaux pour lyncher, n'est-ce pas, certains compatriotes, toutes leurs santé seront prises pour le faire taire. Ce que ça veut dire. Or, moi, personnellement, j'ai quand même fait un point de presse pour dénoncer les tares et les manquements de ce dossier. Parce qu'au Niger, madame, vous me suivez, non?
Oui, pour terminer rapidement, s'il vous plaît.
Voilà, au Niger, il y a une séparation de pouvoir. La séparation du pouvoir exige que la justice soit libre, que l'exécutif fasse son boulot, que le législatif, que le législateur aussi fasse leur boulot. Mais au Niger, quand le dossier a été, le rapport a été rendu public, qu'est-ce que le gouvernement dit? Que ceux qui ont été cités dans le rapport, ils vont le permettre de payer, de rembourser les frais du mois, n'est-ce pas, acquis. Or, il n'appartient pas au gouvernement de prendre une telle démarche.
Merci beaucoup. Francis, merci. Voilà.
Monsieur le député, vous parlez quand même de plus de 1 700 milliards de francs CFA détournés dans un pays qui est toujours présenté comme l'un des plus pauvres de la planète. C'est assez étourdissant. Mais j'allais vous poser une question plus générale. Dans un contexte sécuritaire tendu, on sait que le Niger fait appel même à des concours extérieurs pour mener aujourd'hui sa lutte contre le terrorisme. Comment peut-on comprendre qu'on assiste à des détournements de fonds destinés à renforcer la sûreté nationale? Il y a là quand même une contradiction majeure, je dirais, vis-à-vis de la communauté internationale que souvent le Niger sollicite pour lui prêter main forte justement dans cette lutte contre le terrorisme.
Effectivement, c'est cette dichotomie que nous-mêmes, on se pose la question. On se pose la question parce que depuis la deuxième année, depuis 2012, quand le président de la République avait pris fonction, un an après seulement, on avait commencé à attirer son attention des manifestations au niveau de ce ministère. Il n'a pas voulu nous écouter. L'affaire s'est accentuée vers 2014-2015, juste avant les élections de son deuxième mandat. Quand certains ministres en charge, n'est-ce pas, du ministère de la Défense, des gens qu'on connaissait très pauvres, ont commencé à construire des maisons à hauteur de centaines de millions, ont commencé à faire des dons. Et certains soldats qu'on a contactés sur le front, à travers le dire, nous ont poussé à poser le problème au gouvernement. Mais il n'a pas voulu écouter. Jusqu'à ce que récemment, le président lui-même, n'est-ce pas, demande un audit de ce ministère.
Mais on peut se poser la question, monsieur le député. Monsieur le député, on peut se poser la question même sur la logique du pouvoir vis-à-vis de cette affaire. Parce que vous nous disiez tout à l'heure, l'État, donc dépouillé de près de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, décide non pas de poursuivre tous les suspects, mais uniquement ceux qui ne rembourseraient pas ce qu'ils ont en quelque sorte détourné. Comment peut-on comprendre cette logique? Est-ce que la faute est admise dès lors que des malfaiteurs acceptent de rembourser?
Voilà, je vous dis ce que le gouvernement dit. Il se soucie de la sorte au pouvoir judiciaire et décide de faire rembourser les montants indûment perçus, soit en raison de surfacturation ou au titre des paiements de services de livraison non effectués ou partiellement effectués, et de transmettre aux tribunaux compétents les dossiers des fournisseurs, retenez bien, qui refuseraient de s'exécuter. De prendre des sanctions administratives appropriées à l'endroit des agents publics incriminés. Et de réviser maintenant, c'est maintenant que le gouvernement se rappelle de réviser les procédures de passation des marchés qui, pour des raisons de secret défense, ne font actuellement pas l'objet de publicité ni de communication en conseil des ministres. La séparation de pouvoir voulait que le gouvernement ne s'initie pas dans l'affaire judiciaire. Vers 2016, tout juste après l'élection du président de la République, le gouvernement avait transmis un projet de loi à l'Assemblée nationale qui dit que tout celui qui détourne au-delà de 200 millions de francs CFA serait condamné à perpétuité. Or là, on parle de milliards.
D'accord. Mais honorable Alidou, deux questions s'il vous plaît.
À la justice. Allez-y, madame.
Oui, je voulais savoir, si je me base sur ce que vous avez dit, vous dites que vous n'attendez rien, vous avez dit en l'entame de votre propos que vous n'attendez rien de ce dossier judiciaire en cours. Pourquoi est-ce que vous n'attendez rien de ce dossier judiciaire en cours? Et deuxième question, le président de la République a finalement demandé un audit, instruit un audit sur ces détournements présumés au ministère de la Défense. Est-ce que ce n'est pas une preuve de bonne foi de ce que le gouvernement ou le président de la République souhaite désormais aller jusqu'au bout de cette affaire en établissant clairement les responsabilités?
Je dis, je n'attends rien de la bonne volonté de ce gouvernement parce que tout simplement, il y a eu des dossiers similaires dans le cadre d'un concours à la fonction publique dont les noms de certains ministres ont été cités. Les noms de certaines responsabilités ont été cités. Le dossier a été transmis à l'Assemblée nationale. Moi, je fais partie de la commission chargée, n'est-ce pas, de la commission ad hoc, chargée, n'est-ce pas, de la mise en accusation d'un ministre. Maintenant, où est le dossier? Le dossier a été suspendu. Il n'a même pas été transmis en plénière pour que les Nigériens sachent ce qui s'est passé au niveau du ministère de l'Intérieur.
Mais pour le cas précis, pour le cas actuel, le dossier a bien été transmis au procureur. C'est différent.
J'attends encore. Le procureur n'est qu'un prolongement de l'exécutif au Niger. Je dis le procureur de la République n'est qu'un prolongement de l'exécutif au Niger. Il ne fait que ce que le gouvernement lui demande de faire. Sinon, pourquoi arrêter des gens braves qui ont dénoncé cette manifestation au niveau du ministère de la Défense?
Les membres de la société civile. Et, est-ce que vous nous dites que la qualité des personnes suspectées fait peut-être problème, empêche la justice d'aller jusqu'au bout?
Non, je ne pense pas, madame. Parce que quand un rapport est fini et transmis à la justice, d'abord là, il faut se poser la question. Pourquoi le rapport a été transmis à la justice? Ces gens-là ont-ils refusé de rembourser? Parce que ce que le gouvernement avait demandé de rembourser, d'abord, s'il rembourse, alors on demande la grâce. Alors pourquoi le dossier a été transmis à la justice? Peut-être qu'ils ont refusé de rembourser. De toute évidence.
Mais excusez-moi, Francis, honorable Ali, rappelons juste que pour l'instant, le dossier a été transmis, mais l'enquête est ouverte et personne n'a encore été incriminé. C'est pour répondre à votre préoccupation. Vous dites que pourquoi le dossier a été transmis à la justice, mais personne n'a encore été cité dans le dossier, dans le cadre du dossier qui a été transmis au procureur.
Des gens ont été cités, des noms ont été cités. Effectivement, c'est ceux-là qui dénoncent les noms qui ont été cités et ceux-là qu'on envoie en prison.
On va demander peut-être un commentaire à Ousseynou Narguey.
Maintenant, par rapport à votre deuxième question.
Pardon, excusez-moi.
Allez-y, Alidou, honorable Alidou, pour rapidement.
Pour vous, me rappeler la deuxième question.
La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que le fait d'avoir, que le président de la République a instruit un audit, est-ce que ce n'est pas une preuve de bonne foi qu'il veut réellement établir toute la vérité autour de ce détournement présumé?
À mon avis, non. C'était un marchandage. Le président de la République veut vendre son image à l'extérieur. C'est pas la seule affaire. Si réellement, il y a une honnêteté, une sincérité, il devait aller au bout en demandant un audit de l'ensemble des ministères. Si on va au ministère du pétrole, madame, vous serez surpris de ce qui se passe actuellement là-bas. Ça dépasse largement l'entendement. S'il veut, il n'a qu'à auditer la présidence qui est notre gouvernement dans un autre gouvernement.
Un gouvernement dans un autre gouvernement.
Tout se passe là-bas. Voilà.
Bon, nous n'en savons rien pour l'instant. Nous parlons du rapport au ministère de la Défense. Nous ne savons pas, nous savons rien du tout des autres que vous venez de mentionner, honorable Alidou. Francis, avec Ousseynou, on a encore 2 minutes.
Il reste 2 minutes quand même. Hein.
Oui, tout à fait.
Je peux commencer peut-être, je veux dire, à faire un premier commentaire avant la pause. Ousseynou Narguey, alors, que vous inspire cette affaire, hein? On a le sentiment quand même qu'il y a une sorte de banalisation de ce genre de pratiques délictueuses.
Non, je ne pense pas vraiment. J'entends bien ce que dit l'honorable député d'opposition, M. Alidou, mais l'audit en question n'a pas été rendu public. Donc déjà, je m'étonne et même je me permets de m'inscrire en faux sur les montants qui sont évoqués. On a évoqué 100 milliards de malversations. Je pense qu'on est plus proche de ce chiffre-là.
100 que milliards de manque à gagner pour l'État, précisément.
Tout à fait. Je pense qu'on est plus proche de ce chiffre-là que de 1700 milliards quand on sait que le budget, même si en fait les malversations se sont déroulées, se seraient déroulées entre 2011 et 2019, mais quand on sait que le budget qui a été arrêté en fin d'année 2019 pour comme budget pour l'État du Niger pour 2020 est de 2200 milliards et des poussières, je crois quand même que le chiffre de 1700 milliards qui est avancé est un peu farfelu et ne tient pas la route. L'autre chose que je dois dire, je crois effectivement que d'un point de vue de gouvernance, le président Issoufou en poste souffre quelque part de sa posture démocratique, parce qu'il a annoncé depuis quelque temps déjà qu'il ne se représenterait pas, au moins un an et demi avant l'échéance électorale. Et quand c'est comme ça, malheureusement, dans nos pays africains, on se retrouve avec un président qui règne mais ne gouverne pas.
Merci. On va marquer une pause, Ousseynou, et on
vous
revient.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Suite du débat BBC Afrique, Africa Radio, notre grand témoin invité au téléphone depuis Niamey, Nassirou Alidou, député à l'Assemblée nationale du Niger, membre du parti d'opposition Modène Fayoumana, également président de la commission mines et énergie du Parlement de la CEDEAO. Notre confrère invité à Dakar au téléphone, Ousseynou Narguey, consultant fondateur du site d'information Tract.sn, qui va pouvoir aller jusqu'au bout de son propos. Ousseynou Narguey, vous dites finalement que le président Mamadou Issoufou est un peu victime de sa posture démocratique, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de disculper finalement, je dirais, la source du problème, parce que bon, comment peut-on, séparer d'un pouvoir certaines malversations qui sont commises par, y compris par certains membres, certains proches de ce pouvoir.
Je vous rassure, il y a des présidents qui s'appellent Ousseynou, comme Barack Hussein
Obama,
comme Saddam Hussein ou comme Hissène Habré. Mais bon, bref, pour en revenir au sujet, je pense que dans la gestion de ce problème, le gouvernement nigérien a agi par naïveté quelque part, parce que la transaction avec la douane ou avec le fisc est une pratique qui est reconnue dans tous les pays du monde. Simplement, celle-ci devait se faire non pas sur la place publique, mais de manière un peu plus discrète. Je crois que quand le gouvernement nigérien avait décidé que ceux des fournisseurs qui rembourseraient le trop perçu ou les sommes indûment perçues alors qu'il n'y avait pas eu de contrepartie de fourniture de matériel mise sur la table, je crois que le gouvernement nigérien devait pouvoir mener cela sans le mettre sur la place publique et informer, une fois cela fait, l'opinion publique.
Et la justice dans tout ça, Ousseynou Narguey. Et la justice dans tout ça.
Mais la justice dans tout ça, j'ai un a priori favorable pour l'indépendance de la justice nigérienne. D'abord parce que sous le président précédent, la Cour constitutionnelle avait mis fin au tasartier du président précédent en disant qu'il n'avait pas le droit à un énième troisième mandat. Et parce que aussi, lors de la manifestation du 15 mars, les magistrats nigériens ont participé aux manifestations. Donc je crois en leur indépendance et dans le fait qu'ils vont juger sur ces questions-là de manière adéquate et de manière...
Excusez-moi, Ousseynou, vous parlez du cas Mamadou Tandja, mais c'est une question politique. Là, c'est une question qui touche à la défense. Et le député tout à l'heure, Alidou, notre invité, faisait un lien entre le détournement présumé au ministère de la Défense et la déroute de l'armée tchadienne sur le terrain.
L'armée tchadienne, peut-être l'armée nigérienne.
L'armée nigérienne, évidemment.
Oui,
pardon.
Nous en sommes d'accord. Non. Je crois effectivement, du Sénégal où je vous parle, nous avons une armée qui a pour devise « on nous tue, mais on ne nous déshonore pas ». Je ne sais pas quelle est la devise de l'armée tchadienne, mais je crois effectivement qu'elle est déshonorée. Elle est déshonorée par ces malversations-là. On est dans une guerre...
Est-ce que justement, si je vous posais la question, c'était pour ensuite vous demander quand même, est-ce que cette logique-là, est-ce que cette réalité, ce contexte difficile, sécuritaire, ne pouvait pas justifier un durcissement du ton des autorités par rapport à ces détournements présumés ?
Non, je pense surtout que ce contexte sécuritaire dans lequel l'État nigérien est en guerre, peut-être contre ses propres fils, peut-être contre des forces djihadistes venues d'ailleurs, devait faire en sorte que le président Issoufou travaille à un consensus national avec les autres forces politiques, y compris d'opposition, et qu'il y ait quelque part un droit de regard collectif sur ce qui était fait des fonds mis à disposition par l'État du Niger ou acquis à l'étranger par l'État du Niger. D'accord. Pour être injecté dans cette guerre contre le djihad.
Merci. On revient à notre invité.
Il aurait dû y avoir une gestion collective et consensuelle de ces fonds-là.
Nassirou Alidou, monsieur député, disons le très précisément, plusieurs proches de la mouvance présidentielle sont cités dans cette affaire. Je vous pose la question très clairement, est-ce que vous pensez que le pouvoir protège ses partisans? Et si la réponse est positive, est-ce que le pouvoir devient de ce fait complice de ce type de malversation?
Et protection, il y a de telles protections. Du moment où, nonobstant les règlements et les textes réglementaires en justice au Niger, le gouvernement s'est substitué à la justice pour demander ceux-là même dont le nom était cité dans le rapport de Rambossi. Donc déjà, il y a une prémisse de protection. Des gens qui ont détenu des milliards, des gens qui par leur faute, des familles sont endeuillées, des centaines de familles sont endeuillées. Des gens qui, par leur faute, le Niger a été humilié par des gens qui n'ont subi aucune formation militaire. Je pense que l'idéal voulait que le gouvernement, dans le cadre de la séparation de pouvoir, laisse la justice faire son boulot. Mais il ne doit pas se substituer à la justice pour demander à des criminels de rembourser.
Excusez-moi, honorable Alidou, vous ne pouvez pas parler de criminels alors que ces personnes étaient citées dans un rapport, mais aucune décision de justice ne les condamne. Et justement, pour le moment, le dossier a été transféré au procureur. C'est peut-être à l'issue de cette enquête judiciaire qu'un procès aura lieu et ces personnes pourront être condamnées. Mais vous ne pouvez pas, pour le moment, les traiter de criminels. Parce qu'ils sont présumés coupables de détournement.
Savez-vous combien de Nigériens ont été conduits à la prison sans justice, sans jugement? J'ai fait le cas de Bakary Sédou. Pratiquement 4 ans, il est en prison sans jugement.
D'accord, mais là nous parlons d'un dossier bien précis, par de l'ensemble des dossiers. Honorable Alidou, est-ce que vous parliez tout à l'heure des membres de la société civile, dont entre autres Moussa Tiangari ou encore Habibou Soumaïla, qui sont toujours en détention après avoir maintenu la manifestation du 15 mars dernier pour demander justement que le dossier, que cet audit soit transmis à la justice. Vous pensez que maintenant que le dossier a été effectivement remis à la justice, ils doivent être libérés?
Je ne suis pas dans le secret ni de la présence, ni de la justice, ni du procureur de la République. Mais tout ce que je sais, c'est que ces gens n'ont aucune pitié quand il s'agit de protéger leur intérêt. Ça, je le sais. Et vous me demandez si c'est libéré de la société civile, serait libéré quand parce que le dossier a été transmis à la justice. Je dis, je ne pense pas. Parce que je ne suis pas de leur secret, mais tout ce que je sais, les gens, quand il s'agit de protéger leurs intérêts, ils sont capables de tout. Au lieu de remercier ces leaders de la société civile, qui ont d'ailleurs soutenu le président de la République dans sa démarche de faire justice à ceux-là dont leurs familles ont été endeuillées, non, on les arrête. Et du coup, on fait taire toute contestation, toute manifestation autour de ce dossier. Donc je m'interroge, n'est-ce pas, la bonne volonté du gouvernement quand il s'agit d'aller au bout de soi de ce dossier. Je m'interroge.
Merci beaucoup.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Le grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Niamey, Nassirou Alidou, député à l'Assemblée nationale du Niger, membre du parti Modène Falumana, parti d'opposition, président de la commission mine et énergie du Parlement de la CEDEAO, et notre confrère invité depuis Dakar au téléphone, Ousseynou Narguey, consultant, fondateur du site d'information tract.sn. On va parler à présent, Lilian, si vous voulez bien, du dossier Hussein Abré. condamné en 2017 en appel à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité durant son régime au Tchad entre 1982 et 1990. Hissène Habré est sorti de prison lundi dernier pour rejoindre sa résidence de Wakam au nord de Dakar. Une liberté provisoire, ou plus précisément une liberté sous escorte, comme le précise le juge de l'application des peines dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Considéré comme une personne vulnérable au coronavirus, Hissène Habré, 77 ans, devrait donc réintégrer son lieu de détention après 2 mois, sous réserve, bien entendu, de la résolution de la crise sanitaire. On écoute avec vous à Dakar, à BBC Afrique, un élément sonore.
Oui, Francis, oui, vous l'avez dit, et justement, c'est ce qu'a confirmé à la BBC le ministre sénégalais de la Justice, qui a déclaré que seul le lieu change et que Hissène Habré est toujours en détention. Et nous allons écouter tour à tour le ministre Malick Sall, puis maître Jacqueline Moudeina, l'une des avocates des victimes de Hissène Habré, joint respectivement par Maïmouna Diallo et Atta Arly Aribla.
D'abord préciser que M. Hissène Habré n'est pas libéré. Pas libéré, il reste toujours en prison. Il a juste changé d'endroit, d'emprisonnement. Nous vivons une pandémie qui est mondiale, qui n'a pas donc épargné le Sénégal. Et dans ce cadre, l'administration pénitentiaire a été acceptée pour préserver justement ceux qui sont détenus dans les prisons. Nous avons pensé effectivement que le danger pouvait venir de l'extérieur.
Une réaction de grosse colère parce que il y a plusieurs semaines en arrière, des voix se sont élevées, des partisans de Hissène Habré, pour demander sa libération pour raison de santé. Hissène Habré n'avait pas d'ennui de santé. Mais là, la décision qui est tombée est celle plutôt des autorités pénitentiaires.
Les autorités sénégalaises, notamment le ministre de la Justice, affirment que ce n'est ni une grâce, ni une libération, ni une remise de peine.
Nous sommes sceptiques quant à la déclaration de monsieur le ministre. Nous n'avons aucune garantie que ce monsieur regagnera sa prison à
Libération provisoire donc qui suscite des polémiques, hein, aussi l'inquiétude des victimes, on l'a bien entendu, des victimes qui soupçonnent une libération progressive de l'ancien dirigeant tchadien, d'autant que sa défense et ses proches ont déjà à plusieurs reprises, demandé sa libération pour raison de santé. Ousmane Larguey, vous êtes à Dakar. Est-ce que les victimes d'Hissène Habré ont raison de s'inquiéter d'une liberté provisoire qui pourrait durer indéfiniment?
Je comprends la douleur des victimes contre des crimes qui ont été effectués sur elles-mêmes ou sur leurs proches, mais je voudrais me faire un peu l'écho de la rue sénégalaise et leur porte-voix. Et de ce point de vue-là, je dois dire que les voisins de Hissène Habré dans le quartier de Wakam, que ce soit les personnes lambda, les citoyens lambda, comme les dignitaires, ont plutôt accueilli avec bonheur cette libération, fut-elle temporaire, de Hissène Habré.
Précisons aussi, nous, Wakam étant le quartier où se trouve la résidence de Hissène Habré, dont vous parlez de ses voisins.
C'est cela. Je voudrais que les victimes, notamment tchadiennes, d'Hissène Habré et de ses exactions entre 82 et 90, comprennent que peut-être que Hissène Habré, après sa vie au Sénégal, après 7 ans d'emprisonnement, est peut-être un homme changé. Je crois en la possibilité de la rédemption d'un bourreau pendant son temps de vie. Je ne crois pas aux faits, y compris aux crimes, à conséquences imprescriptibles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Hissène Habré, qui a refait sa vie au Sénégal, parce que, à part sa femme, Raymonde, Jacqueline Fatima Raymonde Habré, a une femme sénégalaise, a des enfants sénégalais, peut-être que on devrait à un moment pouvoir se dire on a fait l'exemple qui devait être fait, on l'a prouvé, on a puni, mais peut-être qu'on pourrait à un moment envisager la fin de son incarcération. Je voudrais faire le parallèle avec le cas du président Gbagbo, qui a été pendant 7 ans devant la Cour de justice internationale à La Haye et incarcéré, pour finir par un non-lieu. Donc je me demande, surtout quand on dit que les victimes tchadiennes doivent être indemnisées non seulement par Issenabré, mais aussi par l'État tchadien, et que dans le même temps, le président tchadien actuel, Idriss Déby, qui était le bras droit de Issenabré, n'est pas inquiété ni par la justice internationale, ni par les droits de l'homme de Human Rights Watch.
Bon, on ne va pas refaire le procès.
Et puis, la comparaison n'est pas raison non plus, quand vous évoquez Laurent Gbagbo. Une autre question rapidement avant de demander un commentaire à notre grand témoin. En décembre 2019, le Comité des Nations Unies contre la torture avait rappelé à la justice sénégalaise qu'elle ne pouvait pas décider d'une éventuelle libération de Issenabré, puisque ce dernier a été condamné par les chambres africaines extraordinaires. Est-ce que le cas Issenabré embarrasse la justice sénégalaise au Sénégal?
Bon, le comité en question est plus consultatif que décisionnaire. Ça, c'est d'abord une première chose. Ensuite, je pense effectivement que la justice sénégalaise est encombrée par le prisonnier africain et international qui est Issenabré. Et elle aimerait bien, cette justice sénégalaise-là, trouver une voie de sortie de crise honorable pour tout le monde, aussi bien pour les victimes que pour quelqu'un qui est quand même un réfugié politique, Issenabré, que le Sénégal a accueilli.
Merci. Francis, je voudrais peut-être avant de demander à notre invité, dire à Ousenou que les victimes attendent toujours d'être indemnisées et que l'argent qui a été fixé n'est toujours pas versé.
Idriss Déby fasse le premier pas.
D'accord. Honorable, vous m'entendez? Allô, honorable Alidou?
Oui.
Dans certains pays, on a vu des centaines de prisonniers être libérés en réponse aux appels lancés par les Nations Unies et l'OMS de libérer les détenus en fin de peine pour désengorger les prisons et limiter la catastrophe en cas de contamination du Covid-19 au Niger. Votre leader, Ama Amadou, a bénéficié de cette mesure. Est-ce que vous pensez que certaines catégories de détenus devraient en être exclu, comme Issenabré, ou plutôt vous réjouissez de cette décision des autorités sénégalaises de lui accorder 2 mois de libération?
Et c'est un sujet très délicat, parce qu'il s'agit quand même d'un ancien chef de l'État. Et selon le communiqué du gouvernement sénégalais, et je dis, entre parenthèses, il faut être aveugle, muet et sourd pour ne pas comprendre l'inquiétude, n'est-ce pas, les inquiétudes, n'est-ce pas, des familles des victimes. Et qu'il y a bien, n'est-ce pas, de Issenabré. Mais je pense que Issenabré n'est pas libéré. Et il est seulement mis en confinement dans un lieu sûr, pour 2 mois. Parce que il faut comprendre que du moment où Issenabré a été mis en prison, sa sécurité relève, n'est-ce pas, du gouvernement sénégalais. Aujourd'hui, qu'on dise que Issenabré est mort du coronavirus, du Covid-19, la responsabilité du gouvernement sénégalais est engagée. D'où cette mesure de précaution. Moi, je pense que...
Donc, si vous comprenez la colère des familles, des victimes ou des victimes, vous soutenez aussi, vous estimez que le gouvernement sénégalais a pris une bonne décision?
En tout cas, moi, à mon avis, c'était une bonne décision, parce que même aux familles des victimes, leur objectif, ce n'est pas la mort de Issenabré. Tout à l'heure, vous avez rappelé le dommagement qu'ils ont demandé. La mort de Issenabré ne les arrange pas.
Ousmane Narguey, Issenabré devrait donc retourner en prison au terme de 2 mois passés en résidence surveillée. Est-ce que ce délai pourrait devenir flexible quand on sait que la lutte contre la pandémie du Covid-19 s'inscrit désormais dans le temps long?
Personnellement, je le pense. Il y a des projections qui disent qu'on sera dans la crise du coronavirus jusqu'en décembre prochain. D'autres parlent de 18 mois encore de corona-crise. Donc je pense surtout que la justice sénégalaise et son administration pénitentiaire ont lancé un ballon de sonde en sortant Hissène Habré de sa geôle, et que s'il n'y a pas tant que ça de récrimination nationale et internationale, nationale au Sénégal il n'y en a pas, de toute façon, je crois que le Sénégal pourrait passer par là, l'État du Sénégal, pour peut-être trouver une libération ou un aménagement, en tout cas très léger, de la peine du prisonnier Hissène Habré.
Donc les craintes des victimes sont fondées?
Non, elles sont fondées. Mais ce que je crois, c'est que Hissène Habré, pour les exactions dont il est accusé, a incarné l'État tchadien. Donc s'il y a quelqu'un qui doit indemniser les victimes tchadiennes, c'est l'État tchadien tel qu'il est incarné aujourd'hui, c'est-à-dire par le président Idriss Déby.
Merci.
Il n'a qu'à dédommager les victimes du président précédent du Tchad.
Merci.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Toujours avec notre grand témoin Nasserou Alidou, député à l'Assemblée nationale du Niger, membre du parti Modène Falumana, parti d'opposition. Nasserou Alidou est également président de la commission Mines et Énergie du Parlement de la CDAO. Notre confrère invité, Ousseynou Narguey, consultant, fondateur du site d'information Tract.sn. On termine cette émission, Liliane, avec vous, avec la RD Congo.
Oui, Francis, oui, en effet, si sa convocation suivie de son incarcération fait l'effet d'une bombe à RDC, c'est que Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est aussi son allié politique au sein de la coalition CASH que forment son parti, l'UNC, et celui du président Tshisekedi, l'UDPS. Son arrestation dans le cadre du financement des projets du programme d'urgence des 100 premiers jours du président Tshisekedi a avant lui conduit nombre des gestionnaires congolais en prison suite aux enquêtes ordonnées par le ministère de la Justice sur l'utilisation des fonds alloués aux travaux publics du programme de 100 jours donc du chef de l'État Tshisekedi. Je commence avec vous, honorable Alidou. Fallait-il ou non arrêter Vital Kamerhe, et quel peut être selon vous le coût politique de cette arrestation concernant d'une part la coalition CASH qui réunit l'UNC et l'UDPS, et d'autre part CASH et FCC de l'ancien président Joseph Kabila? Honorable? Allô? Francis, je pense qu'on a encore perdu l'invité. Où c'est nous? Nous oui. avons perdu notre invité, l'honorable Alidou, qu'on va essayer de rappeler. Alors, le coût politique, je demandais, de cette procédure judiciaire, et fallait-il ou non arrêter Vital Kamerhe?
Alors, fallait-il l'arrêter? Je ne sais pas. Mais pouvait-on l'arrêter? Je pense que si. Je pense que si, parce que il n'a pas bénéficié en tant que chef de cabinet ou directeur de cabinet, je ne sais plus quel est son titre exact dans le cabinet du président Tshisekedi,
directeur de cabinet.
Toujours est-il qu'on pouvait l'arrêter parce qu'il ne bénéficiait pas de l'immunité ministérielle que, de mon point de vue, son allié, le président Félix Tshisekedi, aurait dû lui accorder et en faire un ministre qu'on aurait pu convoquer que sur acceptation du président de la République en fonction. Donc, on a arrêté Vital Kamerhe. Je ne crois pas pour autant que ce soit une cabale orchestrée par le camp du président Tshisekedi. Il y a un accord qui a été passé entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi pendant la campagne pour la présidentielle dernière, qui fait de Vital Kamerhe le prochain candidat, sinon le dauphin en 2023 de Étienne Tshisekedi, peut-être de Félix Tshisekedi. Peut-être est-il trop tôt pour en.
Bon, On a perdu. Je crois que l'invité, on a retrouvé. Pendant qu'on retrouve l'invité, on perd ou c'est nous. Honorable Alidou, vous me recevez?
Oui, je vous reçois, madame.
Voilà, je vous demandais, avant de passer la parole à Ousenou, quelles sont les conséquences politiques de cette affaire judiciaire? Est-ce qu'elle ne va pas fragiliser la coalition Cash, de même que peut-être aboutir à un divorce consommé entre Vital Kamerhe et le président Tshisekedi?
Moi, l'Afrique me fait peur. Pour la simple raison que dès que un leader d'opinion, dans le cadre, n'est-ce pas, de ses fonctions, a des problèmes avec la justice, on crie quelque part, hein, n'est-ce pas, une machination, une manipulation quelque part. Vous rendez compte?
C'est ce que dit l'UNC, en tout cas, le parti de Kamerhe.
Kamerhe a été arrêté. Suite, n'est-ce pas, après avoir été entendu par la justice dans le cadre de détournement présumé concernant des fonds alloués aux grands travaux. Je rappelle qu'il est ancien secrétaire général du Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie. Donc la sensibilité politique, n'est-ce pas, de Kabila fils, ancien président de la République. Il était président de l'Assemblée nationale. De 2006 à 2009. Alors là, je m'interroge. Comment un ancien président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité de son pays, va-t-il accepter d'être un auteur de cabinet d'un président de la République?
Bon,
c'est peut-être dans le cadre de leur accord. De toute évidence, même s'il y a manipulation politique, il s'est mis lui-même dans la boue. Il aurait dit accepter de jouer son rôle, n'est-ce pas, d'un leader politique.
De l'opposition.
D'un leader d'opinion, de l'opposition pour atteindre sa part. Mais il ne faut pas tout juste aller à la mangeoire. Toi qui étais président de l'Assemblée nationale, tu vas accepter un poste.
Ceci dit, monsieur le député, il a été le principal associé de Félix Tshisekedi dans la conquête du pouvoir présidentiel. On l'appelle d'ailleurs un président bis, hein, Vital Kamerhe et RDC. Et on sait que la victoire de Tshisekedi à la présidentielle est toujours controversée. Alors, question, monsieur le député, au-delà de ce dossier judiciaire, est-ce que cette incarcération de Vital Kamerhe ne va pas raviver les interrogations qui pesaient sur l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi et sur ce fameux deal qui a été conclu avec l'ancien président Joseph Kabila?
C'est très difficile à répondre à cette question. Il appartient, n'est-ce pas, aux Congolais de s'autosaisir de cette occasion dans le cadre de leur maturité politique et en tenant compte de la stabilité politique de l'autre pays. Un grand pays, il devait jouer son rôle, naturellement, dans une Afrique unie.
Merci. Francis.
L'Afrique n'a pas intérêt aujourd'hui à ce que la RDC soit déstabilisée pour des questions comme ça.
Francis, nous avons retrouvé Ousenou.
Vous, les journalistes.
Oui, allez-y, monsieur.
Oui, concluez vos propos, monsieur le député.
Nous devons tous jouer un rôle pour attirer l'attention de la politique, des politiques congolais, de faire très attention quant à la stabilité de ce pays.
Francis Ousenou nous a rejoint. Peut-être une question pour conclure.
Oui, pour conclure.
Volontiers.
Oui, Ousenou, alors, certains pensent que vous l'avez vous-même évoqué, que la bataille pour la présidentielle de 2023 a commencé. Les partisans de l'UNC sont convaincus, en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que cette brouille pourrait fragiliser l'accord ou la coalition Cash et peut-être faire les affaires du FCC de l'ancien président Kabila?
Non, je crois que les partisans des deux camps sont toujours un peu plus enthousiasmés et peut-être même trop chauds par rapport à la situation qui se passe. Mais je crois que la la relation cordiale et proche entre Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi existe toujours. Maintenant, effectivement, le président Félix Tshisekedi, qui n'a pas rempli comme il faut les habits de président, a peut-être un peu trop d'alliances et des alliances encombrantes. Il est aussi bien allié de Vital Kamerhe de l'UNC que du président Kabila du FCC, président Kabila dont Vital Kamerhe a été dans le passé un allié. Donc tout ça est un peu compliqué, mais je ne crois pas que ça remet en cause la force et la vigueur de l'alliance entre le président Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe.
Donc pour vous, l'alliance va survivre. L'alliance va survivre à cette affaire judiciaire.
Ce que je crois profondément, c'est que le président Kabila a intérêt à conserver Vital Kamerhe dans sa coalition.
Vous voulez dire le président Tshisekedi ?
Le président Tshisekedi, effectivement, c'est ce que je voulais dire, lapsus de ma part, a intérêt à conserver Vital Kamerhe dans sa coalition et à se dire que, quitte à faire un mandat, il faudrait qu'il fasse un bon mandat.
Merci.
Et
merci.
Se fasse succéder par Vital Kamerhe, qui n'est pas, je pense, le moins légitime pour prétendre à diriger le Congo démocratique.
Merci, Ousmane Narveille.
Et Francis, permettez-moi juste de préciser que la présidence congolaise s'est mise en retrait de ce dossier. Nous avons eu le porte-parole du président Kasongo Mwema Yamba qui a dit que la présidence congolaise n'avait pas de réaction sur ce dossier, qu'il n'y avait pas de réaction à attendre d'une décision de justice.
Merci, et voilà. On va écouter tout de suite les messages de nos auditeurs recueillis et livrés par Didier Ladislas Lando. C'est maintenant.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Niger Memphis Kitine condamne le détournement des fonds destinés à l'armement, mais dit ne pas être surpris. Pour notre internaute de Ouida au Bénin, la mauvaise gestion et le détournement de fonds est la spécialité des dirigeants africains. Ils se demandent comment le Niger peut gagner la bataille contre le terrorisme si le peu de fonds qui y est alloué est détourné. Libération de Issa Nabré, Jimran Tchandjoum Ozana estime que cette libération, quel qu'en soit le prétexte, est une moquerie à l'égard des victimes. Pour lui, c'est un complot et il est fort probable que Abré ne retourne pas en prison après les 60 jours. RDC Charles Bazema estime que l'arrestation de Vital Kamerhe est la preuve que la justice congolaise est une justice à deux vitesses. Il se demande pourquoi elle n'enquête pas sur la gestion du régime précédent. Merci à Thierry Sangaré qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Afrique. Et d'ici là, bon week-end à tous.
C'était
à vous
Didier,
aussi.
Ladislas
Didier.
Lando, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Nassou Aloudou, monsieur le député, une conclusion rapide et générale, s'il vous plaît.
La conclusion la plus rapide, c'est que je souhaite que les télévisions et les radios, surtout internationales comme BBC, soient une éducatrice pour la démocratie en Afrique.
Merci. 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 Nous étions en compagnie. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Nassirou Alidou, député à l'Assemblée nationale du Niger, membre du parti d'opposition Modène Fallumana, président de la commission Mines et Énergie du Parlement de la CEDEAO. Merci à notre confrère Ousmane Narguey, consultant et fondateur du site d'information tract.sn. L'émission a été réalisée à Dakar par Moultagali, régie technique assurée à Paris par Hugo Vallière, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end à vous, Lilian.
À vous aussi, Francis Laloupo. Au revoir.